Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Deep Talk, émission sur laquelle je discute de l'actu avec des acteurs majeurs de la planète tennis. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les principales plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un maximum d'étoiles et à laisser des commentaires. Une nouvelle fois très chanceux cette semaine puisque j'ai le plaisir d'avoir un invité de marque. Il est sur le circuit depuis de nombreuses années, un des plus gros palmarès du tennis français et surtout, il a un des plus beaux revers à une main du circuit, Richard Gasquet. Salut Richard.
Salut Arnaud, ça va?
Comment vas-tu?
Super, toi aussi?
Écoute, très bien, je te remercie. On va balayer un petit peu l'actu. Et pour commencer, comment toi, tu as vécu ce confinement avec justement l'expérience que tu peux avoir aujourd'hui? Est-ce que tu penses justement que c'était plutôt positif, favorable d'avoir un peu de bouteille pour vivre ce moment assez particulier?
Bah écoute, j'ai eu des blessures un peu en début de saison, tu vois, donc c'était pas facile de voilà, je suis parti jouer à Montpellier un peu blessé, donc tu sais ce que c'est, tu commences à faire des matchs, après t'as mal à nouveau, donc voilà, là j'ai pu prendre du temps, j'ai pu me reposer, m'entraîner petit à petit, doucement, reprendre après quelques points, voilà, donc pour moi c'était parfait d'avoir du temps, mais effectivement c'était dur pour tout le monde, mais en tout cas pour ma part, ça ne m'a pas fait de mal de pouvoir m'arrêter, de pouvoir un peu finir toutes ces douleurs et repartir, j'espère en tout cas le plus vite possible. Mais maintenant, je commence à être mieux physiquement, mieux me sentir sur le court. Donc, c'était plutôt un mal pour un bien, parce que comme je t'ai dit, j'ai été blessé pas mal. Novembre-décembre, je n'ai pas pu m'entraîner. Donc, c'était difficile, j'avais du temps à rattraper. Et j'ai pu, malgré le confinement, le rattraper, m'entraîner doucement et tout ça. Donc, pour moi, c'était plutôt pas mal, quoi.
C'était plus à la reprise le manque de compétition ou les petites douleurs qui t'empêchaient justement de pouvoir rejouer ton meilleur niveau?
Non, mais c'était cet hiver, j'ai été blessé pas mal au genou. Donc, novembre, décembre, janvier, je n'ai pas joué, je ne suis pas allé en Australie. J'étais à cours d'entraînement, cours de compétition. J'ai voulu reprendre à Montpellier assez vite. Donc, derrière, tu t'es fait un peu mal à nouveau. Voilà, là, j'ai pu prendre le temps. Mars, avril, comme tout le monde, j'étais chez moi. J'ai pu me reconstruire un petit peu. Là, je reprends la compétition ici chez Mouratoglou. Donc, sincèrement, j'espère maintenant que le circuit, effectivement, va reprendre le plus vite possible. Mais pour moi, en tout cas, c'était pas mal de m'arrêter et pouvoir voilà, m'entraîner, refaire un cycle de travail pour reprendre la compétition du mieux possible, quoi.
Tu as pu t'entraîner pendant justement cette période, mars-avril? Tu as pu faire des choses? Tu as pu t'entretenir ou vraiment bosser?
Ouais, je me suis bien entretenu. Je fais beaucoup de vélo, beaucoup de gym. Voilà, j'ai couru aussi, donc non, j'ai pu me reposer tous les douleurs que j'avais, et surtout j'ai pu les faire passer, c'est ça le plus important. Donc non, aujourd'hui ça va mieux. Je reprends doucement l'entraînement, les points, quelques sets. Donc je pense que voilà, c'est à l'US Open, je pense que je serai à 100% et je recommencerai en même temps que tous les autres, quoi. Tout le monde sera sur la ligne de départ, la même ligne de départ, quoi.
On y reviendra. Là, tu disais, donc, tu es sur la compétition Patrick Mouratoglou, l'UT, ouais. Ultimate Tennis Showdown. Comment ça s'est passé, justement? Qui t'a contacté pour y participer? Lui directement ou pas du tout?
Bah ouais, c'est lui directement. Bon, je connais l'académie ici. C'est un lieu incroyable, quoi. Et pour s'entraîner, c'est parfait. Il y a des super joueurs en face. Le central est top, c'est super bien organisé. Voilà, lui, quand il fait un truc, c'est sûr que c'est organisé à la perfection. Sincèrement, c'est agréable à jouer. Hier, c'était parfait pour une reprise. C'est vraiment top. C'est très intense, mais pas hyper long non plus. Donc, c'est sûr que si aujourd'hui, il fallait jouer 5-7, ce serait impossible. Quand tu t'es arrêté 3 mois, il n'y a aucun joueur qui pourrait faire 3-7 gagnants tout de suite. Donc, vraiment, pour un retour à la compétition, c'est parfait. En plus, tu te prends au jeu, c'est agréable de jouer. Il y a des choses que même sur l'ATP, il pourrait expérimenter. Donc, sincèrement, c'est bien, quoi. C'est top pour reprendre. Je peux pas rêver mieux que d'être ici, quoi.
Le principe, c'est quoi? C'est de faire des matchs, une reprise un peu, renouer avec la compétition d'une certaine manière?
Ben ouais, tu connais ça, quoi. Voilà, tu peux t'entraîner, mais en compétition, c'est jamais la même chose. Tu as toujours ce petit stress un peu qui fait que voilà, tu as des courbatures le lendemain au réveil. Le corps, il faut le préparer, il faut faire des matchs. C'est pour ça que je suis là, quoi. C'est pour justement reprendre la compétition et être prêt après quand l'ATP reprendra. Mais en tout cas, c'est sympa, c'est top pour moi d'être ici, quoi.
Et même si c'est pas comme, enfin, je sais pas, tu l'as pas dit, mais c'est moi qui le dis, même si c'est pas une compétition officielle, tu dis il y a cette petite tension, cette envie quand même d'aller remporter le match contre un adversaire qui potentiellement sera le tien sur les prochaines sur le circuit ATP.
Bah, toujours, c'est ce que c'est, hein. Toujours, quand tu joues, tu as toujours envie de gagner, quoi qu'il arrive. Voilà, donc c'est bien de se tester, de voir que physiquement ça va, que les courses tu les fais, que tu récupères. C'est intense, comme je l'ai dit, donc c'est un entraînement parfait, quoi, tout simplement, et c'est en condition de match. Donc, non, c'est top d'être ici. J'ai fait un bon match hier soir, on essaie de
Tu
faire
as
la.
joué contre David Goffin, c'est ça?
Ouais, j'ai joué contre David.
Match que tu as remporté?
Ouais, j'ai remporté, on a joué. Non, on a bien joué, donc sincèrement, c'était bien. Ouais, je m'étais bien entraîné. Ouais, donc c'est top de jouer au tennis, tout simplement. Tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est arrêté. Voilà, le simple fait de jouer, tu vois, c'est
Tu
cool, quoi.
as raison de le souligner, et j'aurais dû le dire, la première chose très positive, c'est de revoir du tennis et de voir qu'il y a de toute façon, quoi qu'il arrive, de la compétition. Maintenant, tu parlais justement des choses à pouvoir récupérer sur ce genre de formule un peu particulière où c'est beaucoup de shows, de spectacles, peut-être d'entertainment. Quelles sont justement ces choses que tu verrais possiblement transférables au circuit classique?
Déjà, le fait de pouvoir un peu sortir du cadre un petit peu. Bon, je ne suis pas un joueur caractériel sur le court. Mais déjà, si tu balances une balle dans le public, tu vois, tu en as pour 5 000 $. Tu vois, si tu prends l'amende 1 heure après, voilà, si tu casses une raquette, c'est pareil. Si tu prends un point de pénalité, tu prends une amende monstrueuse à chaque fois. Voilà, je pense que les joueurs ne peuvent pas s'exprimer sur le court. Tu as peur tu dis un petit gros mot, tu te prends, voilà, tu prends une amende, tu prends des réflexions de partout. Je trouve pas ça normal, quoi. Je trouve qu'il faut c'est très aseptisé. On est en 2020 aujourd'hui. C'est sûr qu'il faut respecter le jeu, tout ça, mais il y a des choses un peu plus fun à faire. Je pense que les joueurs, les personnalités, ne peuvent pas s'exprimer sur le court. Et pourtant, les gens adorent ça, quoi. Tout le monde te parle de, voilà, l'époque, de McEnroe. Même Kyrgios, il fait un petit truc, c'est repris partout. Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, mais aujourd'hui, sur le circuit, c'est beaucoup trop aseptisé, quoi. Aussi, les matchs sont très très longs aussi. Tu joues à Roland-Garros, ouais, tu peux jouer 3-4 heures. Il y a beaucoup de temps mort. Je sais pas, il y a des choses à faire, quoi.
Ouais, sur cette partie, c'est vrai que je te rejoins assez. Peut-être que on a peut-être un peu rigidifié en effet les règles au niveau de l'arbitrage, où c'est vrai qu'on a le sentiment que plus personne ne peut rien dire. Il n'y a plus de Safin, de Rios, de McEnroe, d'Ivanisevic, enfin, et d'autres. Et tu crois que justement, donc, pourquoi aujourd'hui, enfin, vous les joueurs, vous avez peut-être votre mot à dire sur un possible assouplissement justement de ce règlement, non? Difficile?
Je crois que les joueurs n'ont pas beaucoup de poids. Hein. Tu connais, tu as été joueur aussi. Sincèrement, les joueurs ont peu de poids. Sur aucune instance, les joueurs ont très très peu de poids. On le voit sur l'US Open. Voilà, tu peux parler, mais sincèrement, il y a beaucoup d'intérêts divergents, ce genre de choses. Donc, sincèrement, les joueurs, depuis que je suis là, enfin, je vois les joueurs ont très très peu de poids. C'est surtout les instances qui dirigent, quoi.
Toi, tu serais pour quand même un assouplissement des règles, hein, justement, pour pouvoir libérer les émotions, pour pouvoir s'exprimer pleinement, enfin, et les personnalités, en tout cas laisser s'exprimer les personnalités de chacun. Ça pourrait faire du bien au tennis.
Bah ouais, c'est clair, c'est un cadre très fermé, très rigide. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. C'est vrai que quand un mec s'énerve ou quoi, c'est toujours plaisant à regarder. Ouais, c'est toujours les mêmes matchs, un peu.
En mettant des limites quand même, il faut toujours mettre des limites, c'est-à-dire que l'assouplir.
Toujours, toujours. Non, bien sûr, toujours un juste milieu. Dans tout, il faut un juste milieu. Et c'est clair qu'il faut trouver un juste milieu dans le tennis. Après, faut voir. J'ai pas d'idée particulière, mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire. En tout cas, c'est cool de les tenter ici, de reprendre la compétition, de faire un petit truc ici. C'est sympa, quoi.
Et tu penses que qu'est-ce que tu penses, pardon, du système des cartons à la place des sets? Est-ce que ce n'est pas avantagé quand même les gros serveurs, les gros cogneurs, les gros attaquants? Je ne sais pas, je dis ça un petit peu au hasard comme ça.
Si, bah oui, c'est clair que c'est l'avantage des gros serveurs. C'est sûr que tu fais 2 points au service. C'est sûr que ça avantage un peu tout, mais de temps en temps, voilà, il y a des points qui comptent, qui sont très importants. Voilà. Il le faut un peu en double avec le NOAD. Pourquoi pas sur certains matchs. Je ne sais pas, il y a des trucs à faire, mais en tout cas, il n'y a pas de temps mort du tout. Tu vois, tous les 15 secondes, tu joues. Il n'y a jamais de temps mort. C'est vrai que bon, moi, je suis un mec qui demande énormément sa serviette, ce genre de trucs. Ça peut éviter un peu le spectacle, les spectateurs. Voilà, Nadal aussi. Tu vois, tu as pas mal de temps mort en tennis, même si c'est dur. Il y a beaucoup de... Ça enchaîne vite, mais je pense que tu pourrais gagner voilà, du temps de jeu et que ça pourrait être un peu plus fluide. En tout cas, ici, ça l'est, ça va très vite, c'est intense. Pas de serviette. Donc, c'est vrai que c'est...
Ces habitudes qui sont très ancrées, tu peux les changer, tu peux les modifier et t'adapter si le règlement change.
Oui, bien sûr. Oui, c'est clair qu'il y a des trucs à faire. C'est vrai que tu peux t'adapter à beaucoup de choses, quoi.
Tu dis que c'est intéressant d'avoir des matchs plus courts aussi, pourquoi pas, et que tu dis sur Roland, peut-être par rapport au public aussi qui a du mal à accrocher sur un match pendant 3, 4, 5 heures peut-être. De notre côté, ce n'est pas aussi la beauté de notre sport d'avoir ces matchs épiques, homériques, tu vois, où tu en as vécu, j'en suis sûr, un paquet. Et ce que tu retiens finalement, c'est peut-être aussi cela où tu sauves des balles de match, tu en as, où tu perds, tu gagnes, mais à l'issue quand même, des matchs complètement fous.
Bah, je suis d'accord avec toi. C'est clair qu'il y a eu des matchs en 5-7 qui étaient incroyables, c'est sûr. Voilà, c'est toujours la même histoire. Après, est-ce qu'une télé veut avoir le match pendant 3-4 heures, c'est sûr que le 5e set, il y a des trucs exceptionnels qui se passent. Mais ça peut être un peu long, le 2e, le 3e, ça peut prendre du temps. Mais après, comme tu dis, ça vaut le coup sur une beauté de 5e set. C'est sûr qu'il y a des matchs qui sont fabuleux. Donc, c'est très, très dur de trouver le meilleur système. C'est très, très compliqué à dire. Mais comme tu dis, c'est clair que quand tu fais des grands matchs, on se souvient de la Coupe Davis surtout. Enfin, moi, c'est surtout ça que je me souviens. Voilà, ou les 5e en grand chelem, un quart de finale, ce genre de grands matchs. C'est sûr que ça fait aussi la beauté du jeu, quoi. Donc, c'est pas facile à trouver le meilleur truc, quoi.
C'est dur, mais je comprends. Après, je crois qu'est-ce qu'il faut se conformer. Enfin, en gros, c'est les questions qu'on se pose. Est-ce qu'il faut se conformer, si tu veux, et accepter le sport business avec les médias qui vont derrière. Et donc, c'est ce que tu dis, des télés, la retransmission qui souhaiterait certainement avoir des formats arrêtés où tu sais à quelle heure ça commence, tu sais à quelle heure ça finit, j'entends. Mais d'un autre côté, pour la dramaturgie et la beauté de notre sport, on se souvient quand même, et ils sont suffisamment rares, ces matchs, justement, pour qu'on s'en souvienne et qu'ils aient marqué justement l'histoire. Enfin bon, je ne sais pas si...
Non, mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. Après, on parle de l'US Open, là, ils essaient de sauver le tournoi. Voilà, malgré des choses compliquées, aller là-bas, c'est compliqué, c'est pas évident, mais on sait pourquoi ils essaient d'avoir le tournoi. Voilà, c'est le sport business aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il ne faut jamais oublier l'histoire du jeu. Et c'est clair que, après, comme tu dis, il y a eu des grands, grands matchs en 5-7. Ça, je suis d'accord avec toi.
Sur l'UTS, ta participation, elle est sur combien de week-ends?
5 semaines. C'est 5 week-ends. Ouais.
C'est 5 week-ends. Est-ce que tu imagines pouvoir voir une cohabitation entre le circuit ATP et l'UTS? Parce que si j'ai bien compris, une des volontés de Patrick, c'est de voir cette ligue perdurer dans le temps. Tu penses que c'est possible?
Bah écoute, j'y souhaite en tout cas. Voilà, j'y souhaite.
Ça dépend à quelle fréquence peut-être quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le calendrier est déjà très chargé, non? Ça paraît compliqué d'en avoir trop régulièrement. Après, qu'il y en ait un peu comme la Lever Cup, où à quelques moments dans le calendrier, c'est peut-être envisageable. Mais tu vois, dans quelle proportion?
Bah, comme tu dis, ça paraît difficile. Le calendrier est pris, quoi. Mais après, je pense que tu peux en faire 2 par an. Tu peux légitimement le faire. Tu vois, tu en fais une saison en novembre, début décembre. Tu vois, il fait toujours beau. À Nice, ici, il fait toujours beau. Ouais. C'est faisable, quoi. Tu peux en faire 2 par an. Je pense que c'est faisable. Je te dis, en tout cas, le format est agréable à jouer. Sincèrement, c'est agréable de jouer, quoi. Vraiment.
Et tu penses que tu peux attirer de nouveaux fans? Parce que l'objectif, c'est aussi ça. Attirer de nouveaux fans pour le tennis.
Bah, en tout cas, il fait bouger les lignes un peu. Déjà, il faut des mecs qui commencent, quoi, à faire des trucs comme ça, de changer un peu les règles, c'est faire un peu plus de voilà, que ce soit un peu plus accessible, un peu plus moins aseptisé, ce genre de choses. En tout cas, il va dans ce sens-là et c'est le sens de l'histoire un petit peu, quoi. Voilà, même s'il faut effectivement jamais oublier le tennis, l'histoire du tennis, mais c'est le sens un peu quand même voilà, du futur un peu, d'essayer d'assouplir un peu les choses, quoi. C'est sûr que tous les sports le font. Il y a quand même que le tennis qui fait pas grand-chose, mais comme il faut toujours, comme je t'ai dit, un juste milieu. Il faut pas faire n'importe quoi non plus, mais il faut jamais renier l'histoire aussi. Mais je te dis, il y a un juste milieu à trouver. Il faut réfléchir là-dessus, quoi. Mais en tout cas, lui le fait, et tu peux dire que bravo là-dessus, quoi.
Le coaching sur le court, ça c'est un vaste débat. Comment toi, tu vois tout ça de ton œil de fin tacticien?
Bah écoute, je le vois que tu peux. Bon, tout le monde parle, pas tous, mais bon, tu peux parler un peu. Ton coach, il est jamais très loin dans la tribune, tu vois. Il est déjà assez proche. Moi, je parle souvent au coach. Tu as très peur avec l'arbitre parce que pareil, tout de suite, c'est une amende assurée. J'ai pris énormément d'amendes sur le coaching, tu vois, juste en parlant un petit peu, surtout quand j'étais avec Bruguera, avec Sergi, tu sais, qui parlait beaucoup, beaucoup. Tout de suite, c'était pas possible. Donc, je pense déjà, tu peux assouplir ça, tu vois, tu peux parler à ton coach dans la tribune, tu vois, un petit peu, tout simplement, tu as le temps, tu peux échanger deux, trois mots, spécialement. Il n'est pas obligé de venir sur le court, tu vois, mais bon, de temps en temps, tu peux assouplir ça, tu vois, il peut te donner deux, trois conseils, dire, allez, avance, quoi. Fait des trucs basiques, mais ça suffit déjà, tu vois. Il peut pas, voilà, de la tribune, tu peux avoir une interaction un peu, c'est pas mal, quoi.
C'est quasiment déjà ce que tu dis, ce qui se passe parfois sur quelques tournois finalement. Mais c'est en tout cas que ce soit toléré, c'est ce que tu veux
oui,
dire.
Oui, voilà, que ce soit toléré, quoi. Toléré, oui, ça doit être tolérable, ça se passe, mais toujours un peu off, tu fais toujours un peu gaffe à l'arbitre, ce genre de choses, mais ça devrait être un peu toléré, oui. Je pense que le coaching, c'est important, donc ça dépend des joueurs, mais en tout cas, moi je trouve ça bien d'aller parler à son clan un peu de temps en temps, quoi.
Mais tu n'as pas l'impression que ça peut justement pénaliser d'une certaine manière les joueurs qui sont dits entre guillemets forts mentalement, tu vois, par rapport à des joueurs qui ont peut-être plus besoin de cet apport, tu vois, sachant que moi, encore une fois, et c'est que mon avis, mais le coaching, je suis assez partagé. Oui, le tolérer comme ça dans les tribunes, mais après, de là à dire qu'un coach doit venir, tu vois, au changement de côté, je pense que ça n'a rien à voir dans l'aide que tu apportes aux joueurs. Et il me semble que le principe du joueur de tennis dans un sport individuel, c'est un petit peu comme un professeur qui finalement, a son élève. Le professeur, il ne va pas passer l'examen avec son élève.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Il y a un peu ce truc, tu vois, d'être un peu seul et de trouver les solutions par soi-même.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, tu as bien raison. Je pense que c'est sport individuel. On est d'ailleurs beaucoup respecté pour ça. Tu vois, moi, on me dit toujours, les mecs, des footballeurs ou des rugbymen, ils disent que c'est monstrueux, tu es seul sur un court, personne t'aide, tu n'as pas de coéquipier, pas d'entraîneur. Donc, non, il faut garder ça. Moi, je ne suis pas du tout pour le coach qui vienne te parler sur le court. Tu vois, je suis comme toi, je ne suis pas du tout pour ça. Je dis toujours pareil, un peu de juste milieu. Voilà, de temps en temps, tu peux parler dans la tribune un petit peu. Ça peut être drôle. Ça peut faire vivre un peu le truc. Mais non, je ne suis pas sur le court. Je suis d'accord qu'il ne doit pas venir. Et comme je t'ai dit, c'est ça qui fait la beauté de notre sport. C'est qu'on fait un sport individuel. Et vraiment, je pense que tout le monde respecte le tennis pour ça. Parce qu'on sait que mentalement, c'est un sport très, très compliqué, quoi.
Sur les évolutions qu'on pourrait justement apporter au tennis de demain. On parle de plein de choses, donc du coaching. En tout cas, toi, tu parles plus d'assouplir légèrement les règles sans être trop radical.
C'est ça déjà le plus important. Oui.
Et ma question, c'est aussi, quand tu parles, tu sais, on parle beaucoup ces dernières années d'avoir homogénéisé un petit peu les surfaces. Aujourd'hui, finalement, est-ce que si on veut avoir peut-être des joueurs différents s'exprimer aussi sur différentes surfaces, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne à ce qui se passait peut-être dans les années 90 où la différence, l'écart de surface était peut-être plus marqué qu'aujourd'hui, finalement. Tu vois, revenir sur des surfaces un peu plus hétérogènes. Toi, ça te parle ou ça ne te parle pas, ça?
Et toi, tu penses quoi de ça?
Moi, ce que j'en pense, je pense que ça serait pas mal. Je pense que ça serait pas idiot de... Je ne sais pas, aujourd'hui, toi, tu peux encore plus en parler quand même, parce que Wimbledon, pour le coup, on a le sentiment qu'il n'y a quasiment plus ou très peu de serveurs volleyeurs, pendant qu'à une époque il n'y avait que ça parce que le gazon était différent. Et je ne sais pas, après, si soit on accepte de voir les mêmes joueurs gagner, mais il ne faut pas non plus s'en étonner dans ce cas, soit on revient, tu vois, à des choses un peu plus différentes au niveau des surfaces, plus particulièrement pour permettre un renouvellement et peut-être de voir plus de têtes sur la plus haute marche des podiums, en gros.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je crois que quand même, tu mets même un tapis de salle de bain, je crois que ça sera toujours Djokovic, Nadal, Federer qui gagneront, quoi. Tu peux mettre une surface miroir ou je ne sais pas quelle surface hyper râpeuse, hyper lente. Je crois que les meilleurs resteront quand même les meilleurs. Tu vois, c'est tellement. Mais après, ouais, on a le souvenir un peu des années 90 aussi. Il n'y avait que des services, que des volets. Tu vois,
Oui,
voilà, le jeu aujourd'hui, oui. T'as peut-être raison, mais après le jeu.
non, ce que je veux dire par là, c'est par rapport à la radicalité, tu vois, évoquée là sur notamment, tu vois, une compétition comme l'UTS, ou alors c'est peut-être justement fait exprès, hein, tu vois, pour mettre en exergue un petit peu les choses qu'on pourrait récupérer, tu vois, c'est.
Non, non, bien sûr, je suis d'accord avec toi que le gazon, en tout cas, déjà, Wimbledon devrait être plus rapide. Ça, c'est clair, c'est une certitude. C'est déjà le premier truc. Après, il y a des échanges. Voilà, est-ce que tu as envie de voir que les services volés? Je ne sais pas, quoi. Est-ce que tu préfères les échanges de fond de course? C'est à voir, quoi. Mais c'est vrai que tu pourrais, ouais, les cours pourraient de temps en temps être un peu plus rapides. Mais je pense qu'après, malheureusement ou heureusement, les 3-4 meilleurs seraient aussi forts parce qu'ils sont bien plus forts que les autres, tout simplement, quoi.
Ah, mais ça, je voulais te l'entendre dire et ça m'amuse. Hein, ta réponse m'a plu quand même, quelle que soit la surface.
Oui.
Vu l'époque, ces 15 dernières années, les trois auraient de toute façon, tu crois, tout trusté, tout remporté comme ils l'ont fait.
Oui, sans aucun problème. C'est les plus forts de très très loin, quoi. C'est peut-être les trois meilleurs joueurs de l'histoire. Donc, ça n'aurait pas changé en tout cas le cours de l'histoire. Voilà, peut-être Federer aurait gagné peut-être un peu plus de Wimbledon par rapport à Nadal si c'était un peu plus, oui, un peu plus rapide peut-être, et encore ça reste à voir, tu vois. Donc oui, les trois sont bien plus forts que les autres, quoi. Ça, c'est une certitude, quoi.
Tu as évoqué rapidement l'US Open. Alors, j'ai lu quelque part qu'il y avait eu un zoom à 400. T'en faisais partie ou pas de ce fameux zoom?
J'y suis allé au début, mais tu sais. Comme j'ai dit, je pense qu'il n'y a que l'US Open qui va choisir, tu vois. Donc après, tu peux dire ce que tu veux, hein. Voilà, mais c'est l'US Open ou l'État, les États-Unis, c'est eux qui choisissent. Ils te disent, tu le fais, tu le fais pas, c'est eux qui ont la décision. Je te dis, les joueurs, ils peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont la décision. Donc c'était une réunion, mais bon, au final, pour rien dire, quoi. Voilà, tout le monde a eu le même résultat. Tout le monde l'a dit après, on est allé pour pas grand-chose.
Ouais. Mais la décision, elle doit quand même être prise. Alors, c'est le cas en concertation, enfin, avec différentes instances, avec les joueurs, avec, j'imagine, l'ATP aussi, l'ITF. Enfin, j'imagine que tout le monde fait partie un petit peu de ces discussions, mais il n'y a pas de consensus aujourd'hui qui se dégage.
Dans le tennis, il n'y en a pas, hein. Tu vois, tout est un peu différent. Voilà, tout le monde est chacun de son côté, quoi. Voilà, c'est depuis. Regarde à Roland Garros, le président l'a fait de lui-même, tu vois. Donc il a pas parlé aux joueurs. En fait, il n'y a rien, quoi, tu vois. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui. C'est eux qui décident tout simplement. Et après, c'est libre à toi d'y aller ou pas, hein, tu vois. Si t'as pas envie, si t'as peur que ça soit.
Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, sur l'US Open? Tu penses qu'il aura lieu ou pas le tournoi? Tu penses que ça
Moi, je
va.
pense qu'il aura. Moi, je pense qu'il aura lieu. Ouais. Moi, je pense qu'il aura lieu. Voilà. Après, tout le monde pense qu'il aura lieu. Tous les joueurs pensent qu'il aura lieu. Après,
Dans des
on va.
conditions dégradées, dans des conditions extrêmes, pour reprendre là, le terme de Djokovic?
Oui, c'est extrême. C'est clair que c'est extrême. Après, c'est dans 2 mois. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 2 mois, quoi. Tu vois, 2 mois, c'est long. Ici, en France, il y a 2 mois, on était confinés. Voilà. Aujourd'hui, c'est quasiment. Enfin, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, on ne peut pas trop savoir ce qui va se passer aux États-Unis dans 2-3 mois, mais c'est vrai que c'est extrême, quoi. Les conditions vont être extrêmes. Après, c'est surtout qu'il n'y ait pas de public. C'est vrai que c'est compliqué comme truc, mais j'espère juste, enfin, en tout cas, que ce qui me choque, c'est s'il n'y a pas de qualif. Déjà, s'il n'y a pas de qualification, ça, c'est un peu choquant. Voilà, c'est soit tout le monde joue du premier au 300e mondial, soit personne. Voilà, tu ne sauves pas un tournoi. Enfin, ils essaient de sauver le tournoi, mais enfin, tu ne le sauves pas à tout prix, quoi. Voilà, tu le sauves si les conditions sanitaires sont dégagées, et surtout si tout le monde peut jouer, parce que ça, c'est le pire. S'il n'y a pas de qualification, voilà, c'est au rabais. Déjà, y aller sans public, c'est déjà difficile, tu vois. Donc, mais après, c'est tout le monde ne parle pas pareil. C'est vrai qu'un septième mondial n'a pas la même réaction que mec, tu es dans les 10 premiers. Moi, ma carrière, j'en ai fait une quinzaine d'US Open, donc c'est pas pareil. Chaque joueur a des avis différents sur la question, quoi.
Ouais, tu parles finalement, enfin, s'il a lieu, en tout cas l'US Open, il y aura des concessions à faire quoi qu'il arrive.
D'accord. Ah ben oui, c'est clair, ouais, c'est clair. Après, je pense qu'il faut deux personnes, deux accompagnateurs. Ça suffit. Après, c'est sûr que tu vois des dérives aujourd'hui, il y a 5-6 personnes. C'est trop aujourd'hui, c'est clair. Mais deux, il faut un entraîneur, un kiné. Ça, c'est clair que c'est important. Mais après, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement quelles vont être les mesures aussi. On entend un peu deux, trois trucs, mais c'est assez flou tant qu'ils n'ont pas dévoilé un peu leur dispositif. On ne sait pas exactement ce que ça va être. C'est vrai que, est-ce qu'il y a une quatorzaine? Est-ce que tu attends 14 jours à l'hôtel? Ça, oui. C'est sûr que c'est compliqué, quoi.
Toi, tu, enfin, je sais, on parle du staff réduit à une ou deux personnes. Toi, dans ces conditions, tu y vas ou tu y vas pas? Tu t'es posé la question?
Bien sûr qu'on se pose la question. J'attends déjà le dispositif. Tu sais, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va être. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont assouplir les mesures? Est-ce que les cas vont repartir aussi? Est-ce que c'est dangereux là-bas? Voilà, qu'est-ce que ça va être? Non, je n'y vais pas à tout prix. Hein. C'est sûr que je ne vais pas à l'US Open à tout prix. Donc, j'attends un peu de voir ce que ça va être, quoi, ce que ça va donner, ce qu'ils vont dire, les conditions là-bas. Voilà, c'est sûr, tu restes toute ta journée à l'hôtel. Pas de spectateurs. Voilà, ce n'est pas très excitant, c'est sûr. Mais après, voilà, s'il faut y aller, quoi.
Est-ce que la tenue du tournoi peut dépendre de la venue de Djoko et Nadal, par exemple? Ou non, tu ne crois pas? Tu crois que la US Open est seule à décider, et peu importe les joueurs qui y participeront?
Moi, je pense que oui. Après, je me trompe peut-être. Hein. Je me trompe peut-être, certainement, peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'ils le feront. Voilà, s'ils peuvent le faire, ils le feront. Après, c'est pas eux. Enfin, c'est peut-être au-dessus que ça décide. Mais je pense pas que ce soit les joueurs qui aient le pouvoir de faire ou de défaire ce tournoi-là, quoi.
J'ai même l'impression, au regard de ce que l'on voit, là, tu vois, justement, l'UTS, donc, qui est une compétition. Donc, le tennis reprend. L'Adria Tour aussi. Enfin, il y a quand même pas mal de compétition qui commence à reprendre, et parfois même avec du public, hein, parce qu'on l'a vu en Serbie.
Ouais.
Ça paraît très étonnant, justement, que le circuit ne reprenne pas, non?
Bah oui, je suis d'accord, ça paraît très étonnant. Après, c'est juste le truc de savoir si tout le monde peut jouer, c'est tout ça, c'est juste ça, l'Amérique du Sud. Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer à New York au mois des Brésiliens, des Argentins, des Chiliens? Voilà, je ne sais pas. Quel va être leur truc pour eux? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller à New York, ce genre de choses? C'est juste, il faut que tout le monde joue. Le tennis, c'est mondial, ça se joue partout. C'est juste ça, quoi. Est-ce que tout le monde va pouvoir jouer? Voilà. Après, il n'y a pas de public. C'est sûr que ça va fausser un peu le jeu. Les points aussi. Est-ce qu'il faut mettre des points? Ouais, ce genre de choses. Il y a beaucoup de flou aujourd'hui quand même, quoi. Mais c'est sûr que je pense que ça devrait reprendre quand même, quoi. C'est sûr. En tout cas, il ne faut pas non plus que ce soit le seul sport qui ne reprenne pas. C'est sûr que ça serait un peu désastreux au niveau, en termes d'image aussi, quoi.
Là, tu vois certains joueurs zapper l'US Open pour se consacrer à une préparation exclusivement de terre battue avec Roland, qui a beaucoup plus de chances de se jouer et dans de meilleures conditions?
Peut-être Nadal, peut-être. Pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Je sais pas, je peux pas parler pour lui. J'ai du mal, j'ai pas tous les trucs, mais ça dépend. Après, je te dis, des conditions là-bas, on ne sait pas exactement comment ça va être dans 2 mois. Est-ce que ça va être voilà, si c'est dangereux, les tests. Imagine, fait. Après, est-ce qu'il y a des cas, s'il y a un cas là-bas qui arrive, est-ce qu'ils arrêtent le tournoi? Il y a énormément de questions. Tu sais, imagine, t'as un joueur qui est dans les 128 qui est testé positif sur le tournoi, est-ce qu'il continue le tournoi quand même, ou est-ce qu'il fait, voilà, ça paraît très compliqué à envisager, mais je sais pas, enfin, comme je te dis, les conditions, je sais pas qu'est-ce que ça va être, on sait pas encore, hein. Ils ont pas dévoilé exactement leur dispositif, il y a beaucoup de flou et beaucoup de questions quand même qui sont en suspens,
quoi. On revient un peu sur toi, la suite, tu as 33 ans, bientôt 34,
je dis, ouais.
Donc Ah, tu nous as dit que tu te sentais bien, que tu avais pu retravailler correctement, mais finalement, quand on est plutôt en bonne deuxième partie de carrière, hein.
Même, il y a quatre cartons ici à l'UTS, hein, tu vois, donc je crois que je suis au niveau de ma carrière, je suis quand même dans le quatrième.
Dans le quatrième.
Ouais.
C'est quoi tes objectifs aujourd'hui après avoir fait des demi-finales de Grand Chelem, avoir gagné la Coupe Davis, avoir autant bourlingué sur le circuit avec autant de résultats surtout parce que tu as été septième mondial et médaille olympique aussi. Enfin voilà, ton palmarès parle pour toi. C'est quoi? C'est la passion qui t'anime?
Ben, c'est très simple en fait, tu vois, c'est très simple, c'est que je me régale de jouer. Voilà, j'ai le kiff d'aller jouer, d'aller faire des matchs avec des jeunes, tu vois. Ce soir, ça me fait marrer, jouer avec Tsitsipas. Voilà, tu vois, voilà, jouer quoi, jouer, avoir des sensations, tu vois, tu connais le tennis, tu as joué. Voilà, c'est quand même magnifique, le public, les sensations que tu peux avoir. L'adrénaline que tu as, voilà, mais le simple fait de jouer, de faire des beaux coups, d'avoir le public qui adore ça quand même, parce que le tennis, c'est suivi dans le monde entier. Tu vois que tu touches des gens quand même voilà, qui adorent le simple fait que tu joues. Et moi, je kiffe de jouer, tout simplement, voilà, même si c'est plus difficile, si effectivement, après 20 ans de carrière, au niveau physique, c'est pas la même chose. Quand tu as 20 ans, voilà, tu joues, tu t'arrêtes jamais, tu joues 80 matchs par saison. Là, c'est plus compliqué, il y a des ajustements à faire, mais c'est juste, voilà, quand je suis en forme, je sais que je peux faire des résultats et je peux me faire plaisir, tout simplement. Voilà, Joe, c'est pareil, on en a parlé. Il n'est pas de toute fraîcheur non plus, mais on se fait plaisir sur le court. On sait que ça tardera pas à s'arrêter. Je n'aurai pas de soucis. Quand ça s'arrêtera, je sais que j'aurai fait le maximum, mais j'essaie de jouer encore un petit peu, parce que ça me fait plaisir d'être là, d'aller taper avec des jeunes, de jouer, tout simplement. Le simple fait de jouer. C'est ça qui me fait plaisir. Après, ce qui est dur, c'est effectivement les blessures, repartir à zéro, ce genre de trucs. Ça, c'est un quotidien qui est compliqué, mais en tout cas, jouer, ça me fait plaisir. Donc, je sais que ça va pas durer longtemps, mais j'espère prendre, voilà, ce qui me reste, le prendre avec le plus de kiff possible.
J'insiste hein, et je t'écoute hein, avec beaucoup d'attention parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point tu es passionné par ce que tu fais. C'est vrai qu'on peut dire qu'on aime tous le tennis, mais il y a quand même des différences entre les joueurs. Il y en a qui sont vraiment habités, qui suivent les résultats, qui adorent jouer au sens propre du terme. Toi, tu fais vraiment partie de ces joueurs et je trouve que voilà, c'est important de le souligner, de le dire et d'en parler. Et ça s'est entendu évidemment dans ton propos là à l'instant. Et moi, je tenais à en remettre une petite couche là-dessus.
Ouais, tu sais, les images, voilà, on a beaucoup beaucoup dit de choses, hein, dans ma carrière, mais c'est vrai qu'on n'a jamais dit, effectivement, on a dit beaucoup 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 de trucs, mais on n'a jamais, ouais, on n'a jamais trop dit ce truc-là, comme tu dis, que ouais, je suis un vrai passionné de tennis. Moi, j'adore le tennis, être dans les clubs, aller voir des jeunes, tout ça. Le simple fait de jouer me fait plaisir, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Effectivement, je préfère le faire sur le Santal de Roland-Garros. Mais bon, en tout cas, j'adore ça. Et comme tu dis, ouais, c'est cool que tu le mentionnes.
Tu parlais de Joe, je parle de Joe, Gilles et Gaël, c'est un peu ta génération, et c'est vrai que c'est une génération dorée, et malgré tout, on le dit, le temps passe, et vous allez beaucoup manquer quand vous ne serez plus là. Je pense que pareil, les gens ne s'en rendent pas compte de ça. Alors, on a souvent eu tendance à critiquer parce qu'il n'y a jamais eu cette fameuse victoire en Grand Chelem, mais malgré tout, il y a eu des moments quand même assez extraordinaires. Et est-ce que vous en parlez entre vous? Vous, tous les quatre, tu vois, j'aime pas les nouveaux mousquetaires, c'était comme ça qu'on vous avait rebaptisé, mais est-ce que vous parlez justement de l'époque dans laquelle vous avez joué au tennis ensemble? J'imagine que vous avez eu cette discussion et qu'est-ce que vous vous dites?
C'est, ouais, la question, c'est long à répondre. C'est long à répondre. Je te dis déjà, comme tu dis, c'était une belle période. Voilà, les gens ne s'en rendent toujours pas compte. Pas tout le temps, mais c'est vrai que on te dit toujours le Grand Chelem, on n'a pas gagné un Grand Chelem. Mais bon, tout aurait été. Tu sais, Joe, il a failli gagner en 2008, à 2-3 points près, il a failli gagner l'Open d'Australie. On a beaucoup critiqué la formation, j'ai entendu toujours trouver ça. On n'a pas gagné un Grand Chelem, tout ça, ce genre de choses. Mais il faut pas oublier il y a eu des joueurs incroyables en France, tu vois, ça fait 10 ans qu'il y a des joueurs dans les 10, dans les 50, dans les 100. Donc, j'espère que la prochaine génération sera comme nous. Mais bon, en tout cas, il y a eu en tout cas une très très belle génération en France. C'est vrai qu'on n'a pas eu non plus de chance de tomber sur Djokovic, Nadal, Federer. Ça a été compliqué, mais encore une fois, à nous d'être meilleurs aussi, tu vois. C'est comme je l'ai dit, c'est pas que non plus. Nous, on avait certainement des choses à améliorer. Je te dis, Wawrinka l'a fait, Cilic l'a fait. Disons qu'il y avait peu de place. Voilà, il y avait peu de place par rapport à ça. C'est sûr que quand tu vois les vainqueurs de Roland Garros, à l'époque, il y a eu Gaudio, il y a eu Alberto Costa, il y a eu Verkerk en finale, tu vois, il y avait Henman en demi. C'était des énormes joueurs. Il y avait un peu plus de place peut-être qu'aujourd'hui, hein, où là, les mecs trustent quasiment tout, quoi. C'est une période, je pense, c'est la période la plus brutale du tennis, quoi. Tu vois, on est tombé là-dedans. Voilà, je dirais qu'il y a ces deux choses-là. Il nous a manqué un petit truc et eux, en même temps, étaient les meilleurs joueurs de l'histoire. Donc, quand tu réunis les deux, ça fait que, voilà, on a fait des demi, des finales. Je pense que Joe a été le plus fort. Il faut quand même le reconnaître. Joe quand même a fait 6 demi-finales, une finale de grand chelem. Il a gagné des Masters 1000. Mais il nous a manqué un petit truc. Moi, j'ai fait 3 demi de grand chelem. Je suis tombé sur un autre Djokovic, Nadal, Federer, qui était plus fort que moi. Je n'ai pas eu la petite occasion de jouer un joueur un peu moins fort. Il y en a eu, tu vois, un demi de grand chelem. Il y en a eu. Moi, j'ai chaque fois joué les meilleurs. Mais comme je te dis, il n'y a pas d'excuse. Hein. À nous d'être plus forts. Voilà, ça nous a manqué un petit peu. De réunir, ça fait que les 3 meilleurs joueurs de l'histoire et nous, il nous a manqué des petits trucs dans le jeu, voilà, des petites adaptations qu'on n'a pas fait. Quoi.
Donc on arrête de dire c'est pas forcément le mental ou le physique ou la technique, c'est plus subtil que ça.
Il faut connaître le sport énormément, hein, tu vois, et le sport c'est compliqué à connaître, hein, c'est pas facile, tu vois, on dit beaucoup. Il y a des partisans du mental en France, voilà, on te dit ils n'ont pas le même mental, voilà, ce genre de choses. Je veux bien l'entendre, mais bon, surtout, ça se joue surtout au niveau tennistique. Hein, quand tu vois jouer Nadal, Federer, Djokovic, c'est des meilleurs joueurs de tennis, c'est les meilleurs joueurs de tennis de l'histoire, voilà, ils n'ont pas de faille. Donc, tu peux mettre le mental que tu veux, ils jouent mieux au tennis que les autres. Voilà, tu vois jouer Djokovic, le retour il est meilleur que le nôtre. Le coup droit de Federer est extraordinaire. Donc, voilà, c'est toujours réducteur de dire. En France, le mental, pourtant, mais je te dis que voilà, on peut progresser, tout le monde peut progresser là-dessus, mais je crois que la première qualité de joueur de tennis, c'est quand même sa technique. Après, c'est sûr, technique mentale, physique, effectivement. Mais ce qui me saute aux yeux quand je vois ces 3 joueurs-là, c'est au niveau technique, au niveau de la prise de balle, au niveau du retour, du service. Nadal, le coup droit, l'intensité qu'il met, voilà. Enfin, c'est surtout au niveau tennistique que je vois qu'ils n'ont pas de faille, tout simplement. Je ne sais pas ce que tu en penses, dis-moi ta réponse.
Ah ben non, mais j'aime bien quand tu fais les questions aussi. Non, mais ouais. Si, je suis d'accord avec toi. Attends, ce sont 3 joueurs qui sont plus complets globalement que les autres. Et oui. À tous les niveaux. Après, tu peux développer évidemment des qualités physiques et des qualités mentales à condition que techniquement tu sois.
Ce que j'ai déjà dit quelquefois, permets-moi de couper, c'est juste mentalement, c'est que voilà, pour moi, leur force mentale, c'est d'avoir toujours progressé, toujours réussir à progresser. Tu vois, voilà, c'est ça qui m'impressionne. C'est que quand tu regardes le revers de Federer à 20 ans et tu le regardes aujourd'hui, c'est plus du tout le même. D'ailleurs, tu l'avais battu.
Arrête. Est-ce que c'est une question d'ambition d'ailleurs, d'après toi?
Peut-être. Voilà, ça, c'est une force mentale. Pour moi, ça, c'est la vraie force mentale. Tu vois, tu vois Nadal joue aujourd'hui. Voilà, il joue beaucoup mieux que quand il a commencé. Tu vois, Djokovic, le coup droit, c'est le service. Voilà, c'est ça leur grande force mentale pour moi, c'est ça, quoi. Les mecs progressent tout le temps. Voilà, tu les vois, année après année, ils sont de plus en plus forts. Et pour moi, c'est le mental, c'est ça, quoi. Voilà, c'est vraiment leur truc incroyable. C'est qu'ils n'ont jamais arrêté de réfléchir à leur jeu et de progresser, quoi.
Sachant que quand tu changes quelque chose dans ton jeu et que tu as déjà très bien joué, que tu as déjà beaucoup gagné, ça peut aussi être très perturbant. Donc, c'est pour ça que c'est aussi difficile. Et c'est ce que tu veux mettre en avant sur ces joueurs qui finalement sont dans cette démarche de quête, de recherche, de progrès permanente, quoi.
Voilà, c'est ça qui m'impressionne. Si tu regardes des images de Federer, moi je l'ai joué, voilà, c'est pas le même joueur. Il joue beaucoup plus vite quand il a commencé sa carrière. Enfin, Djokovic, pareil. Enfin, Nadal, c'est criant, tu vois, il joue énormément du fond de court. Là, il prend la balle beaucoup plus tôt. Enfin, c'est plus les mêmes joueurs de tennis et c'est ça qui m'impressionne énormément, quoi. C'est sûr que les joueurs ont jamais arrêté de progresser, toujours la quête de la perfection, du truc. Donc, s'il y a un truc mentalement à chercher chez eux, c'est ça, quoi. C'est que les mecs n'ont jamais arrêté, quoi, de progresser. Et ils ont monté le tennis à un niveau incroyable, quoi.
Toi, si tu devais faire le bilan, c'est peut-être le seul truc que tu aurais peut-être moins réussi à faire finalement parce que tu t'es entraîné, tu as bossé, tu avais envie, tu étais ambitieux. Mais cette quête du progrès, cette façon de faire évoluer ton jeu, tu penses que est-ce que c'est justement ce qui t'a peut-être un peu manqué ou pas?
Bien sûr, je suis d'accord. Je dis pas le, tu sais, je me cache derrière rien du tout. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure. Hein, voilà, on se cache pas toujours que sur Nadal, Federer, Djokovic. Hein. C'est pas pour ça qu'on n'a pas gagné des grands chelems. Ça en a fait partie, mais comme tu dis, eux ont progressé jour après jour. Ils ont progressé plus que les autres. C'est vrai que voilà, moi le service, j'ai jamais eu un service incroyable. Tu vois, Federer, c'est vraiment énorme. Au niveau physique, c'est des monstres. Donc, de temps en temps, ça m'arrivait de pêcher sur ce côté-là pour le très, très haut niveau. Je te parle, voilà, c'était mondial, je l'ai été. Je te parle pour gagner un grand chelem, pour faire le coup énorme. Voilà, on a des physiques, des très grands physiques, mais eux ont des physiques exceptionnelles. Voilà, donc, comme tu dis, il y a des petites choses, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Il y a des choses, enfin, en tout cas pour ma part, je ne parle pas pour les autres. Mais des ajustements, voilà, le service, prendre la balle un peu plus tôt de temps en temps, peut-être un peu plus vers le filet, être un peu plus fort physiquement. C'est des petits pourcents qui font qu'à la fin, t'es moins fort, tout simplement. Quoi. Ça se joue à des petites choses qui font que voilà, qui font qu'ils ont fait leur carrière, voilà, qui font que c'est eux qui ont trusté tout sur leur passage. Quoi.
Dernière petite question, j'ai vraiment pas envie, tu disais que tu étais dans le dernier quart-temps. De te pousser vers la sortie. Bien au contraire, tu as dit au micro d'Antoine Beneteau dans l'échange que, à terme, possiblement, tu aimerais peut-être coacher. Après, c'est quelque chose auquel tu penses ?
Ouais, c'est clair, ouais, c'est quelque chose que j'ai envie. Après, peut-être pas voyager 52 semaines, parce que tu sais ce qu'est un coach. Un coach, c'est un vrai coach. C'est 24 heures, c'est 24 heures sur 24, tu vois, la carrière d'un joueur. Voilà, tu as joué, tu sais qu'il n'y a pas énormément de place pour autre chose à côté. Le coach, il doit être avec le joueur, ça fait partie de. Voilà, c'est une formation, c'est dédié, il faut être dédié au joueur, tu vois. Donc, voilà, de ce côté-là, je ne sais pas si je pourrais faire ça. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui font 10-15 semaines par an. Ce n'est pas le vrai métier de coach, mais en tout cas, tu peux apporter quelque chose.
Tu as quand même beaucoup, beaucoup d'expérience et clairement, tu pourrais apporter. Tu as des profils de joueurs comme ça auxquels tu pourrais penser quand tu te projettes ou c'est un peu tôt peut-être ?
C'est un peu tôt, tu vois, c'est un peu tôt pour dire, mais juste un joueur qui est passionné, voilà, tout simplement, un joueur qui donne tout. Après, victoire, défaite, on a tous perdu, mais un joueur juste qui donne tout sur le court, qui est passionné par ce qu'il fait. Après, le niveau, on verra, tu vois, voilà, c'est pas. Voilà, quelqu'un avec qui tu t'entends bien aussi. Moi, je me suis bien entendu avec les coachs. Toi, en fait, tu as eu des relations pareilles avec des entraîneurs où c'était agréable de partir avec eux. Voilà, s'il y a un joueur comme ça, un jour où c'est cool d'être avec, qui s'entraîne, qui est fort, qui a un projet. Pourquoi pas, mais après, tu sais, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Quoi.
Question, ça c'était aussi vachement dans l'aventure humaine aussi.
Non, mais c'est clair, bien sûr.
Transmission.
Bien sûr.
Richard.
Arnaud.
Régalé, mille fois.
Moi aussi.
Pour cette discussion,
avec plaisir,
sincérité, c'était vraiment très très intéressant.
Je vous retrouve
la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk et surtout, si vous aimez, likez, abonnez-vous, n'hésitez pas à noter et commenter sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine, salut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.